Chapitre 4, la chanson. Monsieur et Madame Soupy, Monsieur Lopard, Madame Bache, la vieille Mademoiselle Taburet, Monsieur et Madame Troude et leur demoiselle, toute cette aimable société qui, depuis 4 années que Monsieur Théophras Longuet et son épouse villégiaturée à Esbly avaient coutume d'entendre au dessert de ce matrimonial anniversaire la Lisette de Béranger, reçurent avec une stupéfaction que je serais en vain de décrire la chanson suivante. J'ai dit que l'air en était « Ton joli, belle bannière, ton joli boulin !» Et Théophras, l'œil allumé, le verre en main, beuglait. « Fanandelle, sans cette piole, on vit chalumant, harton, pivoise et criole, on a gourdement, pitanchon, faisant riole jusqu'au jugement. » Cette chanson, comme vous pouvez en juger, était d'argot, et comme l'argot ne s'apprend pas à l'école, je crois de mon devoir envers le lecteur de la traduire. Fanandelle sans cette piole, frère en cette maison, on vit chenûment, on vit grassement. Artois, pivoise et criole, pain, vin, viande, on a lourdement, on a beaucoup. Pitanchon, faisons riole, buvons, bonne chère, jusqu'au jugement. Malgré la richesse de la rime, ce couplet ne fut suivi d'aucun applaudissement. Ces dames ne firent point retentir le cristal des verres du choc de leurs couteaux. Elles regardaient Marceline fort curieusement et semblaient demander une explication. Qu'est-ce que Marceline eût expliqué ? Adolphe lui-même considérait Théophras avec désespoir. Mais Théophras, comme possédé d'un démon, continuait. Selon couplet. Ici, quand est le théâtre ? Ici est le théâtre. Du petit Dardan. De l'amour. Fonçons à ce bien bel âtre. Fonçons à ce petit garçon. Notre palpitant. Notre cœur. Pitanchon, pivot, chelâtre, buvons de vin excellent, jusqu'au luisant jour, jusqu'au jour luisant. Théophras, triomphalement, reprit ses 2 derniers vers et prolongea sa dernière note en regardant le soleil qui disparaissait dans une gloire à l'horizon restreint des coteaux. Le chanteur, d'une main, tenait son palpitant et de l'autre, il embrassait la nature. Pitanchon, pivoire, chelâtre, jusqu'au luisant. Il se rassit, content de lui, en disant à Marceline : Alors, qu'est-ce que t'en penses de ça, Marie-Antoinette ? Au milieu du silence de mort de tous les assistants, Marceline demanda toute tremblante : Mais pourquoi m'appelles-tu Marie-Antoinette ? Parce que tu es la plus belle de toutes. S'écria Théophras dans une grande exaltation. J'en appelle à Madame la maréchale de Boufflet, qui a du goût, mais j'en appelle à vous tous. Il n'y en a pas un, par la gorge du pape, qui me démentira, ni le gros Picard, ni le Bourbonnais, ni le Bourguignon, ni la tête de bouton, ni le craqueur, ni le parisien, ni le provincial, ni le petit breton, ni la plume, ni Patapon, ni la canette. Ni la Porte-Saint-Jacques, ni Gratelard, ni Bras de Fer, ni Gueule Noire, ni même Belle à voir. Comme Théophraste avait à sa droite la vieille Madame Taburet, il lui pinça le genou, ce qui fit que cette honorable personne crut qu'elle allait s'évanouir. Personne n'osait bouger, car le regard ardent de Théophraste épouvantait la société. Et celui-ci, penché amoureusement vers Mademoiselle Taburet, lui disait, en fixant Marceline, qui se prit à pleurer, « Voyons, Mademoiselle Taburet, n'ai-je pas raison ? Qui pourrait-on lui comparer ? Est-ce la belle laitière ou la petite Mion ? Ou même la blanche, cette anguilleuse ? Ou la belle Hélène qui tient le cabaret de la harpe ?» Il se tourna vers Adolphe. « Allons, toi, va de bon cœur !» dit-il avec une énergie effrayante. « Tu vas me dire ton avis. Regarde un peu Marie-Antoinette. par le veau qui tète. Elle les met toutes dans le sac, Jeanne ton Vénus, la bouquetière du palais royal, et Marie le roi, et la femme Salomon, la belle limonadière du temple, et Jeanne Bonnefoy, qui vient de se marier à Meunier, qui tient le café du Pont-Marie. À toutes, le Tabdru, Manon de les Versailles, la grosse poulaillère, la platine, la vache à panier et la Bastille. Théophraste d'un bond fut sur la table et la vaisselle se brisa en mille éclats. Il tenait une coupe, il cria « Je bois à la reine des nymphes, à Marie-Antoinette Néron !» Puis il broya le verre entre ses mains qui furent ensanglantées et salua la société. Mais celle-ci s'était enfuie. Un esprit superficiel pourrait juger, après les événements que nous venons de relater, que Théophraste était subitement devenu fou. Voici quelque chose qui est bientôt dit. Cet homme est fou. Avec cette phrase rapide, on explique tout ce qui ne tombe point sous le sens commun. Cependant, le sens commun n'est pas du tout le sens. Nous y reviendrons, mais dans le cas qui nous occupe, nous ajoutons qu'il n'est point besoin d'un sens exceptionnel pour affirmer que Théophraste n'était pas fou. Ce n'est pas parce qu'on devient subitement fou qu'on peut chanter une chanson que l'on n'a pas apprise et parler couramment une langue que l'on ne connaît pas. C'était bien le cas de Théophraste, et l'expérience scientifique moderne établit avec des exemples indiscutables que ce cas est loin d'être unique. On a vu des sujets frustes, ne sachant ni lire ni écrire, n'étant jamais sortis de leur village, répondre le plus correctement du monde aux médiums qui les interrogeaient dans une langue morte. Comment expliquer cela, qui s'est passé devant des professeurs de nos facultés et non devant des charlatans? On ne sait pas encore. Nous sommes toujours sur le seuil du grand mystère. Nous n'avons encore fait qu'en pousser la porte en tremblant. Les uns expliquent que c'est un esprit savant qui parle par cette bouche ignorante. D'autres ont émis, timidement, et combien comprenons-nous cette timidité, qu'un tel phénomène ne peut s'expliquer que par la réminiscence d'une vie antérieure. Jusqu'à plus ample informé, j'imagine que ce que Théophraste raconte sans savoir, c'est l'autre qui le sait. Celui qui par instant revit en lui. Toutes les phrases, donc, qu'on ne peut comprendre avec Théophraste, on les comprendrait avec l'autre, si on savait qui est l'autre. Je reprends les mémoires de Théophraste à la suite de la scène de la chanson. Je me trouvais sur la table, au milieu des éclats de la vaisselle, cependant que toute la société s'était enfuie. Cette façon brutale que mes convives avaient de prendre congé de ma personne m'avait quelque peu étourdi. Je voulus descendre, mais par un phénomène singulier, j'eus autant de difficultés à me trouver sur le sol que j'avais montré d'adresse à monter sur la table. Je me mis à genoux, et prenant de grandes précautions pour ne point choir, j'arrivais cependant à mes fins. J'appelai Marceline, qui ne me répondit pas, et que je retrouvais toute tremblante d'effroi dans notre chambre. J'enfermai soigneusement la porte et me disposai à lui donner quelques explications. Ses grands yeux étonnés et pleins de larmes m'en demandaient, et je crus qu'il était de mon devoir de Marie de ne point lui sceller plus longtemps la grande et surprenante préoccupation de mon esprit. Je l'engageai à se déshabiller et à se mettre au lit. Me voyant tout à fait redevenu calme, et je l'étais en effet, elle ne fit aucune difficulté pour m'obéir. Je la rejoignis bientôt. J'avais laissé la fenêtre de la chambre ouverte. La nuit était idéale, et comme j'entendais Adolphe marcher dans le jardin, je lui criai que l'heure du repos avait sonné. Bientôt, je n'entendis plus dans toute la maison que le bruit du cœur de Marceline. Ma chère femme, lui dis-je, tu dois ne rien comprendre à ce qui m'est arrivé ce soir. Rassure-toi, moi non plus. Mais en unissant nos deux intelligences, nos deux amours, je n'espère point d'arriver à un résultat appréciable. Je lui contai alors tous les détails de ma visite dans les caves de la conciergerie, ne lui scellant quoi que ce fût, et lui traçant une image fidèle des sentiments extraordinaires qui m'agitaient et de la force inconnue qui paraissait me commander. Tout d'abord, elle ne dit rien, se contentant de se retirer doucement vers la ruelle, comme si elle avait peur de moi. Et quand j'en arrivai au document qui révélait l'existence des trésors, elle demanda à le voir tout de suite. Je jugeai par là de l'intérêt qu'elle portait à mon aventure, et je lui en fus aussitôt reconnaissant. Je me levai et lui montrai le papier à la lueur de la lune qui était dans son plein. Comme moi, comme tous ceux qui en avaient déjà eu connaissance, elle reconnut immédiatement mon écriture, et elle fit le signe de la croix. Avait-elle peur de quelque diablerie ? Marceline n'est point une sotte, mais elle m'expliqua que ce geste avait été plus fort qu'elle. Du reste, elle eut au fait de se remettre, et elle trouva l'occasion de faire l'éloge d'Adolphe, qui, malgré mon mauvais vouloir, avait su l'initier aux éléments du spiritisme, « science, me disait-elle, qui, dans mon état, ne manquerait point de me rendre quelque service. » Je m'étais recouché. Nous avions le papier sur notre lit, dans le rayon de lune, et en face de ce témoin irrécusable, elle eut bientôt avoué que j'étais un esprit réincarné, datant de 200 ans. Comme je me demandais une fois de plus qui j'avais bien pu être, elle me causa la première peine depuis notre mariage. Elle dit « Oh, pauvre Théophraste, tu as dû être un pas grand-chose. »« Et pourquoi ? » fis-je très humilié. « Parce que, mon ami, tu as ce soir chanté en argot et que les dames dont tu as cité les noms n'appartiennent pas à l'aristocratie. Quand on fréquente la Tapenade, la Platine et Manon de Versailles, je répète qu'on n'est pas grand-chose. » Elle disait ceci avec un léger accent de dépit que j'attribuais à la jalousie. « Ah, mais j'ai cité aussi la maréchale de Boufflers, » répliquai-je. « Tu dois savoir que les mœurs étaient si dissolues sous la régence du duc d'Orléans que la mode à la cour pour les dames était de se donner des noms de catins. » Je dois, bien au contraire, avoir été quelqu'un de considérable. Qu'est-ce que tu dirais d'un bâtard de régent ? Pour toute réponse, elle m'embrassa avec transport, et moi-même, me souvenant, comme il était de mon devoir, de la date que nous fêtions ce jour-là, je lui prouvai que si Théophraste était plus vieux de 200 ans, son amour était toujours resté jeune et galant. Chapitre 5. Monsieur Le Camus dit des choses désagréables à Monsieur Longuet. Il pouvait être 2 heures du matin, continue à nous narrer Théophraste dans ses mémoires, quand ma chère Marceline sut me persuader qu'il était de toute nécessité de faire à Monsieur Adolphe Le Camus nos confidences. La grande expérience d'Adolphe, sa science certaine de la métaphysique, disait-elle, devait être d'un grand secours à un homme qui avait enfoui des trésors 200 ans auparavant et qui voulait les retrouver. « Tu verras, mon ami, ajouta-t-elle, tu verras que c'est lui qui te dira comment tu t'appelles. » Elle était si gentille que je finis par céder à ses instances. Et dès la matinée, j'entrepris Adolphe sur l'événement de la veille. C'est ainsi que de fil en aiguille, enfin je veux dire de chanson en document et de document en conciergerie, je lui contai, tout en épiant sur son visage l'effet qu'une telle révélation pouvait lui produire. Je constatai que je l'avais complètement ahuri. Ceci m'a paru même étrange au plus haut point qu'un homme qui faisait profession de spiritisme s'étonna ainsi de se trouver en face d'un bourgeois sain de corps et d'esprit, lequel prétendait avoir une existence certaine 200 ans avant de renaître. Il me répondit que ma conduite au repas de la veille et les phrases incompréhensibles que j'avais prononcées devant lui, depuis notre visite à la conciergerie, étaient bien faites pour le préparer à une aussi exceptionnelle confidence, mais enfin qu'il ne s'y attendait pas, que je l'envoyais tout interloqué et qu'il serait heureux de toucher du doigt les preuves d'un tel phénomène. Je sortis mon document. Il ne put en nier l'authenticité et reconnut mon écriture. Cette dernière constatation lui tira une exclamation dont je voulus connaître toute la raison. Il me répondit que mon écriture sur un document datant de 2 siècles lui expliquait bien des choses. « Quoi encore ? » fis-je. Il m'avoua alors avec une grande loyauté que jusqu'à ce jour il n'avait rien compris à mon écriture et qu'il lui aurait été impossible d'établir un rapport quelconque entre cette écriture et le caractère qu'il me connaissait. « Vraiment ? » interrompis-je. « Quel caractère me connaissez-vous, Adolphe ? » « Me permettez-vous de vous le dire et me promettez-vous de n'en point vous voir ? » ?»« Ben, je vous le promets. » Et il me fit, sur cette réponse et sur cette promesse, une peinture de mon caractère, qu'il était celui d'un brave bourgeois, d'un honnête marchand, d'un excellent mari, mais d'un homme incapable de montrer de la fermeté, de la volonté, de l'énergie. Il me dit encore que ma timidité était excessive et que cette bonté qu'il me reconnaissait tout à l'heure était toujours prête à dégénérer en faiblesse. Le portrait n'était guère flatté et je ne me cachais point pour en rougir. Et maintenant, fiche que vous m'avez dit ce que vous pensez de mon caractère, me direz-vous ce que vous pensez de mon écriture ? « Oui, répondit-il, puisqu'aujourd'hui c'est nécessaire. » Alors il me fit sur mon écriture des observations qui n'auraient point manqué de me fâcher tout à fait si je m'étais soutenu que M. Petitot, le professeur d'italien, m'en avait servi des concordantes. Il me dit « Votre écriture exprime tous les sentiments contraires à la nature que je vous connais. » Je n'imagine rien de plus antithétique que votre écriture et votre caractère. C'est donc que vous n'avez pas l'écriture de votre caractère actuel, mais l'écriture de l'autre. Oh, oh, m'écriai-je, c'est fort intéressant, mais l'autre était donc énergique. Et je pensais, à part moi, que l'autre avait dû être quelque grand capitaine. Voici ce qu'Adolphe ajouta et que je me rappellerai toute ma vie, tant j'en conçus de peine. Me tout marque dans ces orbages, dans la façon aiguë qu'ils ont de se joindre et dans la manière qu'ils ont de grandir, de monter, de se dépasser les uns les autres, de l'énergie, de la fermeté, de l'entêtement, de la dureté, de l'ardeur, de l'activité, de l'ambition pour le mal. Oh, j'étais consterné, mais je m'écriais dans une lueur de génie. Oh, où est le mal, où est le bien? Si Attila avait su écrire, il eut peut-être eu l'écriture de Napoléon. On a appelé Attila le fléau de Dieu, dit-il. Oh, et Napoléon a été le fléau des hommes, répliquai-je du tac au tac. Je contenais difficilement mon courroux et je lui boudais que Théophraste Longuet ne pouvait être qu'un honnête homme avant sa vie, pendant sa vie et après sa mort. Marceline, ma chère femme, m'approuva et Adolphe, qui vit qu'il était allé trop loin, me demanda pardon.
Chapitre 6
Théophraste a sa plume noire. Je vous laisse à penser si, à dater de ce jour, les conversations entre M. et Mme Longuet et M. Le Camus manquèrent d'intérêt. Elles se passaient du reste de témoins, et c'était fort mystérieusement qu'ils s'entretenaient de coques, de fours, de chopinettes et de trahisons du 1er avril. Ils quittèrent la Villa Flot d'Azur pour regagner Paris dans le dessein de fouiller les bibliothèques. Ainsi faisait-il depuis 3 jours et se désolait-il déjà de leurs 20 travaux. M. Le Camus était le plus patient. Il disait « Que nous ferait de trouver l'espace approximatif où sont enfouis tes trésors si tu n'as pas ta plume noire ?» Théophraste et Marceline réclamèrent une explication nécessaire. Remontons vers le rond-point, proposa Adolphe, car nos amis se promenaient ce jour-là, qui était dimanche, aux Champs-Élysées. Et je vais vous dire ce que j'entends par la plume noire de Théophraste. Quand ils furent sous les arbres, parmi les promeneurs nonchalants, Adolphe commença. Vous avez entendu parler des chercheurs de sources. Certes, répondirent-ils. Mais par un phénomène qu'on n'a pas encore expliqué, ces chercheurs, armés de petites baguettes qu'ils dirigent vers la terre, voient à travers les diverses couches de terrain la source qu'il faut faire jaillir et indiquent l'endroit à creuser. Je ne désespère point d'amener Théophraste à faire pour ses trésors ce que les chercheurs de sources font pour les sources. Je le conduirai sur le terrain désigné par le document et il dira « c'est là qu'il faut creuser pour trouver les trésors. » Mais tout ceci ne m'explique point ce que vous entendez par ma plume noire, interrompit Théophraste. J'y arrive. Je vous amènerai sur cet espace, vous le chercheur de trésors, comme on amène sur les espaces où l'on soupçonne la présence de l'eau les chercheurs de sources. Je vous y amènerai quand vous aurez votre plume noire. » Adolphe fit une pause et reprit. « Je suis obligé de vous parler de Darwin. Rassurez-vous, ce ne sera pas long. Vous allez comprendre tout de suite. Vous savez que Darwin se livra à plusieurs expériences célèbres, dont la plus connue est celle des pigeons. Désireux de se rendre compte des phénomènes de l'hérédité, de la valeur qu'il y faut attacher, il étudia de près la reproduction des pigeons, qui est suffisamment rapide pour qu'il ait pu tirer des conclusions sur un chiffre appréciable de générations successives. Au bout d'un nombre X de générations, il retrouva le même pigeon. Vous entendez le même, avec les mêmes tares, les mêmes qualités, la même forme, le même dessin, la même plume noire, là où le premier pigeon avait une plume noire. Eh bien, moi, Adolphe Le Camus, je prétends, et je vous le prouverai, qu'il en ait des âmes comme il en fut des corps aux yeux avertis de Darwin. Au bout d'un nombre X de générations, on retrouve la même âme, telle qu'elle exista, avec les mêmes défauts et les mêmes qualités, avec la plume noire originelle. Comprenez-vous ?
À peu près, fit Théophraste. Oh, je me mets pourtant à votre portée, reprit Adolphe.
Mais il faut distinguer entre l'âme qui reparaît ainsi héréditairement et celle qui revient par réincarnation.
Voyons cela. Une âme héréditaire qui revit, l'ancêtre a toujours sa plume noire, attendu qu'elle est le résultat d'une combinaison unique, que rien ne vient contrarier, puisqu'elle vit dans un fourreau, le corps, qui est héréditaire au même degré. Est-ce clair ?
J'ai remarqué, mon ami, fit Marceline fort humblement, que chaque fois que vous dites « est-ce clair ?», on n'y comprend plus goutte.
Tandis qu'une âme qui revient par réincarnation, continua Adolphe en se pinçant les lèvres, se trouve dans un corps que rien n'a préparé à la recevoir. Les agrégats matériels de ce corps sont originaires. Je prends l'exemple de M. Théophraste, de plusieurs générations de maraîchers à la Ferté-sous-Jouarre. De jardiniers, de maîtres jardiniers, interrompit Théophraste. Les agrégats matériels de ce corps, dis-je, pourront momentanément imposer silence à cette âme, peut-être originaire, elle. Je prends toujours l'exemple de Théophraste, de la première lignée de France. Mais il arrive un moment où cette âme est la plus forte, où elle parle, où elle se montre tout entière, telle qu'elle fut avec sa plume noire. Oh, je comprends tout, je comprends tout, s'écria Théophraste. Alors, quand cette âme parle en vous, dit Adolphe avec une chaleur touchante, vous n'êtes plus vous. Théophraste Longuet a disparu. C'est l'autre qui est là. L'autre qui a le geste, l'allure, l'action, la plume noire de l'autre. C'est l'autre qui se rappellera exactement le mystère des trésors. C'est l'autre qui se souvient de l'autre. « Oh, mais ceci est admirable !» proclama Théophraste, qui avait envie de pleurer. « Et je saisis maintenant ce que vous voulez dire avec ma plume noire. J'aurai ma plume noire lorsque je serai l'autre. »« Et nous vous y aiderons, mon ami, » affirma Adolphe avec conviction. « Mais jusqu'à ce que nous ayons dégagé l'inconnu qui est caché dans Théophraste Longuet, jusqu'à ce qu'il vive à nos yeux avec assez de force, d'audace et de liberté, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité, en un mot, jusqu'à ce qu'il nous apparaisse avec sa plume noire, livrons-nous avec calme à l'étude de cet intéressant document que vous nous rapportâtes de la conciergerie. Faisons-nous un jeu d'en pénétrer le mystère, précisons les limites de cet espace où les trésors furent enfouis. Mais attendons pour fouiller le sein de la terre que l'autre qui dort en nous dise « C'est là !»« mon ami !» fit Marceline qui débordait d'admiration. « Vous parlez comme un livre, et j'admire que vous ayez toujours prêt pour notre ignorance quelques petits discours qui me l'a fait chérir. Mais n'avons-nous pas à craindre les bouleversements de la terre pour l'objet de nos recherches ?» Depuis 200 ans, femme de peu de foi, répondit Adolphe. Depuis plus de 2000 ans qu'on remue la terre sacrée du fortum, comme jamais ne fut remuée cette terre franque depuis 2 siècles. Ce n'est qu'hier qu'ont réapparu sous le ciel latin ces rostres illustres qui connurent Caius et Tiberius. Ben, je vois s'approcher mon ami, le commissaire de police, M. Mifroy, un charmant homme que je vais vous présenter. Le commissaire de police, Mifroy, qui doit jouer un rôle prépondérant dans cette histoire, un homme d'une 40aine d'années, mis avec une grande élégance et ganté de beurre frais, une boucle argentée sur un front pur, s'avança, sourit, salua, monsieur, madame, et il serra la main d'Adolphe qui dit « Mon excellent ami, monsieur le commissaire de police Mifroy, monsieur et madame Théophraste Longuet. » À la façon dont monsieur Mifroy regarda la belle Marceline, celle-ci jugea tout de suite que c'était un amateur. Elle rougit un peu. « Notre ami Adolphe, dit-elle, nous a souvent parlé de vous, monsieur Mifroy. »« Oh, madame, oh, je vous connais depuis longtemps, » répliqua monsieur Mifroy. « Chaque fois que je rencontre monsieur Le Camus, il me parle de ses amis de la rue Gérando, et dans des termes tels que mon plus grand désir était le bonheur qui m'arrive aujourd'hui, celui de vous être présenté. » « Il paraît que vous êtes très fort sur le violon, » demanda Marceline, conquise par tant de façons galantes. « Oh, madame, si l'on peut dire. Je fais aussi un peu de sculpture et je m'occupe également de philosophie. Je dois ce dernier goût à mon ami Adolphe. Tout à l'heure, je vous ai croisé et j'ai entendu que vous disputiez sur l'immortalité de l'âme. « Monsieur, dit Féophraste, qui n'avait encore rien dit, mon ami Adolphe et moi, nous aimons à nous entretenir de choses sérieuses. Il est vrai que nous parlions pas plus tard que tout à l'heure de l'âme et du corps et des différentes manières que l'âme a de se comporter avec le corps. Et en seriez-vous encore, cher monsieur, fit M. Mifroy, qui avait le plus grand désir de briller devant Marceline, à distinguer la matière et l'esprit? La matière et l'esprit sont même chose aux yeux de la science, c'est-à-dire qu'ils constituent une même unité dans une même force, à la fois produit et phénomène, cause et effet, tendant à un but unique, la montée progressive de l'être. Vous êtes les seuls, messieurs, à faire encore cette antique démarcation de la matière et de l'esprit. Théophraste n'était point content, il dit. Ben, nous faisons, oh, monsieur, ce que nous pouvons. Le groupe était revenu à la place de la Concorde. À l'entrée de la rue Royale, il y avait une grande agglomération de populaires gesticulantes et tumultueuses. Théophraste, en vieux parisien, voulut immédiatement savoir ce qui se passait et se jeta dans la foule. « Prends garde au pickpocket !» lui cria Marceline. « Ah, madame !» fit le commissaire de police Mifroy. « Il n'y a pas de pickpocket quand on est avec le commissaire de police Mifroy !»«
C'est vrai, monsieur, » fit Marceline avec un aimable sourire. « Vous êtes là, et nous ne courons aucun danger. »
« Bon, je n'en sais rien, » dit Adolphe en regardant Mifroy. « Mon ami Mifroy me paraît plus dangereux que tous les pickpockets de la terre. » Mifroy éclata de rire. « Ha ha, le gaillard !»
Théophraste se fit attendre 10 minutes. Il avait l'œil fort allumé quand il revint.
« C'est un cocher, » dit-il, « qui a accroché une automobile. » « Et alors ?»« Ben alors voilà, il ne peut pas le décrocher, c'est tout. »
« Oh, la foule est-elle bête ?» dit Marceline.
Là-dessus, sur un coup d'œil d'Adolphe, elle invita M. Mifroy à dîner. Celui-ci se défendit, mais peu. Transportons-nous maintenant rue Gérandeau. Il est 9 heures, le dîner touche à sa fin dans la salle à manger de Théophraste, M. Mifroy et Adolphe. Pendant le repas, on dit 1000 choses ingénieuses et plaisantes. Mais M. Mifroy est inquiet. Il a plongé ses mains dans toutes ses poches, y cherchant vainement son mouchoir. Après une dernière et inutile enquête dans la poche de côté de sa redingote, il se passe désespérément l'index sous la moustache et aspire avec force. À ce moment, Théophraste se mouche. Marceline lui demande où il a trouvé ce joli mouchoir. M. Mifroy reconnaît le sien, estime que la plaisanterie est charmante, prend le mouchoir des mains de Théophraste et le replace dans sa poche. Théophraste ne comprend pas. Soudain, Mifroy pâlit. Il se tâte le côté gauche, il dit tout haut, « Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mon portefeuille ?» C'est bien simple. On a volé dans sa poche le portefeuille du commissaire. Il y avait 500 francs dedans. M. Mifroy ne regrette pas les 500 francs, mais il se trouve ridicule. Marceline se moque gentiment de lui tout en le plaignant. Intérieurement, il est furieux. « Monsieur Mifroy, dit Théophraste, si vous avez besoin d'argent pour ce soir, je puis vous en prêter. » Et il tire de sa poche un portefeuille. M. Mifroy pousse un cri, c'est le sien. Théophraste devient écarlate. M. Mifroy le regarde, lui retire des mains le portefeuille, comme il a fait du mouchoir, reconquiert ses 500 francs, excipe de ses nombreuses occupations pour prendre congé et dit, avant de dégringoler l'escalier, à son ami Adolphe qui le poursuit. « Mais à quelle sorte de gens m'as-tu donc présenté là ?» Quand Adolphe rentre dans la salle à manger, Théophraste est en train de vider ses poches. Il y a sur la table 3 montres, 6 mouchoirs, 4 portefeuilles contenant des sommes importantes et 18 porte-monnaies.